matin sur Radio Campus dans Focus Musique au Centre, une émission qui vous permet de découvrir quelques-uns des plus prestigieux ensembles musicaux de la région. Ce matin sera un matin idéal puisque nous avons le plaisir de recevoir Marianne Piketty et ses invités. Rendez-vous donc avec l'ensemble Le Concert Idéal.
Le grand rendez-vous.
Bonjour Marianne Piketty.
Bonjour Dominique.
Alors c'est assez réjouissant pour commencer la journée ce titre, Le Concert Idéal, que vous avez donné à l'ensemble que vous avez fondé. Alors pourquoi Le Concert Idéal?
Ben, pour justement faire réjouir un ensemble joyeux. J'ai eu un chemin musical très éclectique qui partait, on disait, dans tous les sens. Mais je crois que c'est mon désir de liberté, c'est mon désir d'explorer, c'est ma soif de musique. J'adore la musique. Je n'arrive pas à choisir, en fait. Je ne sais pas choisir entre le 12e siècle et la classe contemporaine. Donc il y avait cette facette-là, c'est-à-dire que c'est un espace de liberté, c'est un espace de déséquilibre, c'est-à-dire ce qui m'intéressait, c'est j'aime aller au-devant. Ce que j'aime, c'est partager l'émotion musicale. Donc, partager ce que j'aime. Essayer de transmettre tout ce que la musique peut m'apporter à moi et de le transmettre à un public aussi large que possible. Donc, j'ai eu envie d'appréhender le concert, de voir si on pouvait appréhender le concert d'autres manières. Et en fait, en explorant une autre façon de concert, aussi bien en mise en résonance de répertoire que sur la forme même du concert, avec des comédiens, des peintres, et bien en fait, je me suis découverte comme souvent moi-même, et je me suis entourée de musiciens qui ont ce même désir de liberté, ce même désir de déséquilibre pour se découvrir. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir Piketty, d'avoir une femme à la tête d'un ensemble. Ça n'est pas si fréquent comme vous le savez. Est-ce que c'est compliqué d'être une femme et de créer un ensemble? J'ai une métier de femme. Ma grand-mère était première bachelière de France, donc j'ai une mère qui était faisait la recherche en physique. Donc pour moi, le fait de travailler, j'ai été éduquée, je ne me suis jamais posé la question. J'ai été éduquée d'une telle façon que vous avez des modèles féminins. J'avais des modèles féminins, et pour moi, c'était une évidence qu'a priori, je pouvais faire ce que j'avais envie de faire. Donc ça, c'est évidemment pas donné à tout le monde. Je ne suis pas allée chercher, c'était quelque chose qui m'a été donné. Après, je ne vous dis pas que je n'ai pas passé des moments désagréables, des moments qu'on ne devrait plus vivre, qu'on ne devrait pas vivre. C'est assez naturel de tracer mon chemin, et quand j'ai des choses qui me blessent, ben, j'ai la chance d'oublier et de continuer à tracer. Donc, les obstacles me font pas peur. Alors, voilà. Et franchement, dans le concert idéal, je vois même l'histoire de parité. Je ne regarde pas un être humain dans son genre. En fait, je regarde l'être humain. Et il se trouve que la parité vient à moi, et aussi peut-être parce que je suis une femme, ou peut-être parce que justement ce déséquilibre est peut-être plus féminin. Donc, peut-être, et encore je ne sais pas, parce qu'il y a bien sûr des hommes dans le conseil idéal, mais cette puissance ne passe pas, en fait. Et j'ai cette chance-là. Par contre, je ne dis pas, ne croyons pas que nous sommes dans un monde.
On est encore dans un monde.
Voilà. Donc, tout n'est pas fait, il y a encore des choses à faire, mais en tout cas, pour moi, ça n'a pas été un problème de tracer mon chemin. Donc, je vous propose qu'on commence évidemment en musique, avec une musique qui, je trouve, ressemble. C'est la musique d'Astor Piazzolla, c'est plein de vie, mais c'est aussi plein de nuances, de subtilités. Et c'est un de vos premiers enregistrements. C'est donc Les Saisons. Et c'est avec Irène Jacob comme récitante.
Thank you.
saison sur cette musique totalement prenante d'Astarte de l'âme. Non, vous pouvez, Marianne, ça c'est sûr. Et on peut comprendre que ça vous émet très rapidement à ce que vous défendez, qui est quand même le concert mis en scène.
Absolument. C'est, après ce travail avec Irène Jacob nous a permis de faire tout un travail symbolique sur Vialli, sur Piazzolla, sur cette rencontre de ces deux univers. Et puis après, oui, ça a ouvert effectivement un travail avec un chorégraphe. Et tout ce côté viscéral, ce côté qui nous donne envie de bouger, envie de pleurer, envie de rire, envie de. Et puis la musique de Vivaldi, qui a cette exubérance et ces mouvements lents qui sont incroyables. Et bien en fait, effectivement, ça nous a conduit à travailler avec un chorégraphe, Jean-Marc Coubec, et à créer un spectacle. Alors Vivaldi est un compositeur que vous ne lâchez pas, puisque le deuxième extrait qu'on va entendre est extrait d'un disque qui s'appelle Vivaldi, l'âge d'or, qui va nous permettre d'entendre, on parlait des femmes chefs d'orchestre, et il va nous permettre d'entendre une de ses compositrices longtemps oubliées, Barbara Strozzi. Très, très, très beau répertoire qu'on a découvert finalement tardivement. Et j'ai la chance donc de travailler avec Olivier Fourès, qui est un multifacette. Donc, il est musicologue, enfin, en l'occurrence, là, il est musicologue, et il est aussi transcripteur. Donc, il m'a offert cette chance, parce que écouter de la musique, c'est merveilleux, mais pouvoir la vivre, la jouer et la partager avec tout ce passeur qu'on dit à ce moment-là, passeur de musique et de cette émotion. Donc, il a fait une transcription, une diminution sur ce l'accompagné de Strozzi. Vous entendez là avec un théorbe, cet instrument qui est tellement fascinant, magnifique, qu'on avait aussi peut-être moins repéré dans le Piazzolla parce que c'était aussi un théorbiste, mais c'est pas un guitariste, rien n'aurait pu passer. Et là c'était avec merveilleux Nacho Laguna, cet instrument est incroyable parce que, en tout cas, dans cette musique, très clairement, quand on dit que la musique a un côté. Nous ouvre à l'indicible. Il est très clair que cette pièce nous ouvre à l'indicible, mais aussi à des affects. De tendre, de poignant, le violon est narratif. C'est, donc en fait, cette rencontre entre deux mondes totalement différents, c'est bien l'image que je vous conseille d'Anne, mais pourquoi se priver de ce plaisir de jouer Piazzolla et de ce plaisir de jouer Barbara Strozzi. Alors on va passer à une autre compositrice, puisque grâce à vous, en tout cas, elle revive. C'est donc Hildegard von Bingen qui est quasiment, c'est l'ancêtre, hein, c'est la mère fondatrice, on va dire. C'est celle dont on a retrouvé des partitions peut-être les plus anciennes. Et vous avez intégré un projet que vous avez appelé L'Or Bleu. L'Or Bleu, moi c'est du Blue Note, je connais ça en jazz, mais je ne connaissais pas ça en classique. Alors L'Or Bleu, en fait, ce programme, mais en fait, l'idée c'était de mettre en regard deux compositeurs visionnaires. Alors ce programme a une résonance particulière en ce moment, parce qu'il est construit autour du concerto de Hartmann qui a été écrit en 1939. Et Hartmann s'est retiré, restant à Berlin pour témoigner, mais se retirant de la vie musicale et écrivant des œuvres symboliques. Et donc toute son œuvre, je la décrypte, je la raconte en début de concert. Et elle est symbolique, elle dénonce avec son acheter, elle dénonce les compositeurs exilés et persécutés. C'est à la fois une œuvre, c'est un cri contre l'aveuglement, mais alors c'est extraordinaire, c'est que cet homme en 39, il n'a jamais perdu foi en l'humanité. Et en fait, c'est un appel à la résistance, c'est une œuvre qui est lumineuse. Et donc, et dans son concerto, à un moment, il y a deux mesures écrites de silence avant un appel à la résistance, et c'est ce quatrième mouvement qui est ascensionnel. Et donc, ça m'a donné cette idée de l'heure bleue, qui est ce moment de silence, de passage de la fin de la nuit, avec une journée où on ne sait pas si elle sera lumineuse ou non, mais lui, elle se veut porteuse d'espoir. Et donc, cette heure bleue, là, c'est ce moment magique de bascule, et j'ai eu envie de mettre en miroir avec. Avec des regards mystiques, voilà, et grand mystique aussi qui s'occupait des âmes et du corps, et qui était cette première aussi, un médecin, mais absolument, et qui est une musique, alors encore une fois, c'est merveilleux, parce que on en a fait des projections pour cordes, normalement c'est une œuvre vocale, monodique, et on en fait une projection pour cordes, donc ça nous permet de vibrer nous à cette musique. C'est souvent ce répertoire que je m'approprie. C'est, j'aime avoir un violon narratif, un violon qui raconte. Donc, en fait, une musique qui est basée déjà sur un texte, eh bien, j'aime faire parler ce texte au-delà des mots. Alors, on reste sur l'heure bleue, puisque finalement, c'est une heure assez agréable. une heure, comme vous le disiez, plein de possibles. Et la dernière musique qu'on va entendre dans votre portrait, Marion Piketty, c'est une musique de Shostakovich, et on comprend, puisque vous nous avez dit sur le contenu de ce disque, que Shostakovich, qui résistait avec sa musique, pouvait entrer dans cette galerie de portraits. En fait, avec Shostakovich, ce qui m'a impressionné, parce qu'on joue l'octuor, donc c'est une pièce pour octuor qu'il a écrite en 1925, donc c'est un tout jeune compositeur.
Ah, il est encore en but de la répression.
Là, justement, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce qui m'a impressionné, c'est que, en fait, pour trouver la lumière, pour aller jusqu'à l'heure bleue, il faut plonger dans la nuit. Donc, on allait plonger avec Hartmann, mais on plonge avec Shostakovich. Et cette pièce est d'une densité, je veux dire, comme beaucoup de musique de Shostakovich. Je m'interroge, bon, évidemment, aussi on pense à la valse, mais c'est anecdotique de la valse. Tout est sombre. Et comment? Alors, ça, c'est un peu. Mais Shostakovich, dès 18 ans, c'est comme s'il avait déjà toute la noirceur du monde en lui. Et dans cette œuvre, on entend déjà toute la tension qu'on retrouvera dans ses aviars, dans ses symphonies, dans son mystère. Tout est là, à 18 ans. Comme si c'est son chemin de vie. Et ce que je trouve terrible, c'est que c'est la vie de Shostakovich qui a vécu, comme on sait, dans une terreur perpétuelle. Mais il n'était pas le seul. Mais qu'à aucun moment, on sent la lumière en lui. Et par opposition, par contre, à Hartmann, où on sent la même noirceur, parce que le troisième mouvement, du concerto funèbre, c'est la même écriture, mais il va vers la lumière. Et je trouve que Shostakovich, il n'y a aucun moment, on sent l'amour, on sent le désir, le sentiment, mais c'est une noirceur, un pessimisme.
Oui, absolument.
Il y avait peut-être raison, l'histoire.
Scherzo de l'un des deux octeurs à cordes plus 11 de Dmitri Shostakovich, par donc les musiciens du Concert Égal, un disque d'ailleurs par Mario Piketty qui a obtenu, qui a donné une victoire de la musique en 2021, l'année dernière.
Absolument.
Ouais. C'est un beau projet, il faut dire.
Ouais. C'est un beau programme, c'est un programme qu'on aime énormément. Et c'est un programme aussi, il ne faut pas oublier que l'artiste aussi parfois doit être engagé dans la cité. Et c'est aussi un des aspects de l'artiste qui est important pour moi, au-delà d'aller devant des nouveaux publics. C'est, il faut voir si ces artistes ont pris et risqué leur vie pour dénoncer ce qu'ils ont dénoncé. Et c'est une, ce programme que l'on joue aujourd'hui et qu'on aime énormément jouer. Je peux vous dire que quand on a joué au mois de février au Havre, Alors, très rapidement, le projet en cours, ce qui va sortir, c'est donc un nouveau disque. Absolument, on vient d'enregistrer aussi en février le projet Sous l'étoile. Donc, on reprend un partenariat avec ce jeune compositeur Alex Nantes, et avec qui on a fait Filariane. Et puis, et là, on fait vraiment, c'est un compositeur que je trouve vraiment exceptionnel de sa génération. Et donc, j'ai envie, il nous a écrit un concerto, qui est une œuvre, c'est un compositeur aussi très mystique, donc ça, c'est comme aspect important pour moi de la musique. Et son concerto est tellement beau que j'ai eu envie de construire tout un programme autour de son œuvre. On en reparlera tout à l'heure avec lui, bien sûr. Sur le terrain. Alors, Marianne, on va aller donc sur le terrain ensemble, parce que je crois le terrain, vous y allez souvent. Aller sur le terrain, ça veut dire peut-être s'adresser à des publics un peu différents, souvent des publics empêchés, des gens qui n'ont pas la possibilité, soit physique, soit financière, soit culturelle, d'aller au concert. Et donc, le témoignage qu'on va avoir d'une de ces expériences, c'est une intervention que vous avez faite dans un EHPAD, c'était racontez-nous. Alors, c'était à certains moments, c'était une expérience très très forte, parce qu'en plus de ça, elle a eu lieu, elle a commencé avant le premier confinement et elle s'est terminée après le deuxième confinement. Donc, c'était en partenariat avec l'abbaye de Noirlac, où on est en résidence à l'abbaye de Noirlac. Et l'idée, c'était justement de parler de cet heure bleue et de se dire on a conçu un programme à deux musiciens en résonance avec l'heure bleue. Donc, c'était tout un parcours de plusieurs séances sur toute une année où d'abord on faisait 10 cercles de musique à deux musiciens. Donc, vous imaginez le 8e quatuor de Shostakovich en 5 minutes, à deux musiciens.
Elle peut le faire.
Elle peut le faire. En tout cas, bah, c'est la joie du concert égal. C'est que la liberté, c'est parfois oser. Et voilà. Et donc, on faisait 10 cercles de musique. On travaillait aussi avec une graphiste. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs moments. Ils ont choisi d'autres musiques, on les a amenés petit à petit. Donc, évidemment, dans ces 10 siècles, il y avait Edgar de Bingen, il y avait Shostakovich, pour pouvoir les emmener à leur bleu. Et ce qui a été très fort, et je tiens à le souligner parce qu'il ne faut pas oublier, on a la première séance, on a fait les deux premières séances, donc avant le premier confinement. Il y avait un très beau contact parce que les pattes de Saint-Amandou, les encadrants, les soignants sont très très engagés, donc très belle ambiance, très interactif, magnifique. Là-dessus, confinement, et donc on est revenu en février 2021. Et là, il ne faut pas oublier que les personnes âgées avaient été enfermées dans leur chambre, ne pouvaient même pas prendre leur repas. Et ça a été assez terrible de les voir, mais aussi assez merveilleux. Parce que je veux dire que quand je suis revenue, ça a été très poignant et je me suis même. J'avais envie de revenir, mais ça n'était plus un plaisir. Disons que c'était presque trop difficile pour moi. Et au bout d'un mois, déjà, ils sont revenus à prendre des caisses, voilà, interactifs. Et ce qui était merveilleux, c'est que ça s'est fini. Ils ont dessiné, il y a eu des moments vraiment très très forts entre nous. Et ça s'est terminé, on les avait invités à Noirlac. Et ces 10 siècles, je me suis dit, on va leur faire à 10, c'était pour eux, on était tout le concert idéal, là, on était 9 sur scène pour eux. Et je me disais, bon, est-ce que je fais 10 siècles de musique avec du piano, avec des choses. Et puis je me suis dit, Marianne, tu ne sauras jamais si tu peux jouer l'heure bleue à ces personnes-là, si tu n'essayes pas. Et donc, mais vraiment quelques heures avant ce moment, je me suis dit, je vais essayer. Et ça a marché. Et donc, je trouve que c'est des moments essentiel parce que, un, il vous montre l'impact que peut avoir la musique, le lien social, le rôle de l'artiste personne-là. Et puis, ne jamais oublier que si l'on rend la musique accessible à, et qu'on établit un lien, en fait, un lien humain, c'est le lien humain qui fait que la musique devient accessible. Et on n'est pas obligé pour ça de faire écouter ce que les personnes attendent. Il faut bien voir que les personnes pour qui on a joué, on ne sert rien au départ à la musique classique, mais bien, on ne connaît ça rien. Donc, on aura à faire confiance au public, de toute façon, à leur sensibilité, à leur capacité à.
C'est ça, à l'être humain,
oui, plus largement. C'est de respecter vraiment l'être humain en se disant oui, c'est accessible, c'est pour vous. Mais c'est vrai qu'on voit ces personnes bouger les pieds, danser, sourire, c'est très plaisant. Alors, bien sûr, vous avez fait cette action, vous en faites beaucoup d'autres, on ne pourra pas toutes les citer, mais on en retrouvera certaines dans l'agenda que l'on entendra à la fin de cette émission, en particulier le travail avec les écoles, les enfants et les conservatoires.
Absolument.
Concerto pour cordes, c'est l'ensemble, le concert idéal.
au ciel, au ciel idéal. Et vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure en parlant de l'aviateur. Absolument. Donc, il est multifacette. Il intervient en tant que chorégraphe, mais pas uniquement. Il est aussi violoniste. Il a été danseur. Il est danseur. Et il est musicologue spécialiste des 17e et des 18e siècles. Est-ce qu'il faut mieux pour vous? Absolument. Donc, en fait, c'est un interlocuteur aussi pour concevoir les programmes du Conseil idéal. Et c'est évidemment quelqu'un qui nous met en lumière et en mouvement pour le spectacle. Alors, Olivier, vous pourrez vous revient cet intérêt pour le 17e et 18e siècle?
Bonjour. Alors, le 17e et 18e siècle, en fait, c'est tout simplement parce que c'est déjà des périodes qui sont en fait très loin d'aujourd'hui. Donc, en fait, on a le droit de les aborder avec beaucoup d'imaginaire.
C'est la liberté, alors.
Et en fait, voilà, il y a quelque part, en fait, bon, c'est un peu le jeu de piste, en fait, aller chercher des petits documents, faire des puzzles, des mosaïques, et puis plein d'hypothèses sur tout ça. Et puis, en fait, s'imaginer ce monde. Donc, voilà, en fait, ça donne finalement, en fait, ces 17e siècles sont tellement loin aussi de l'académie, ce qu'on a aujourd'hui. Ça nous permet un peu, d'une certaine façon, de retrouver quelque chose, finalement, paradoxalement, un peu plus, en fait, qui prend la musique un peu comme la musique contemporaine. On est obligé d'être créatif, on est obligé de trouver des solutions, on n'a pas toujours, justement, on ne s'inscrit pas toujours dans quelque chose de très logique, etc. Donc, en fait, ça nous fait découvrir des tas de facettes de l'interprétation musicale, l'interprétation tout simplement des expressions, des émotions, des lieux, des différentes cultures. Et en fait, voilà, on découvre un monde un peu différent du nôtre. Donc, on est obligé d'être attentif, créatif et réactif.
Alors, il y a une question qui m'intéressait beaucoup, Olivier Fouret, c'est, bon, vous êtes chorégraphe, donc mettre des corps en mouvement, ça n'est pas forcément très compliqué pour vous. Mais comment est-ce qu'on met en mouvement le corps d'un musicien qui est déjà fort sollicité par son instrument?
Ah oui, alors justement, c'est un peu, voilà, c'est très particulier, mais en fait, c'est quand même très intéressant aussi parce que justement, le musicien bouge. Donc, il y a déjà une gestuelle, en fait, qui est nécessaire, tout simplement, à provoquer des sons. Donc, cette gestuelle-là, en fait, elle peut être d'une certaine façon amplifiée. On peut partir à partir, justement, de ça, ou des fois, justement, on peut aussi confronter la gestuelle musicale à une gestuelle, on va dire, de parties de membres ou de parties du corps qui ne sont pas normalement sollicitées par l'instrument. Et ça va obliger
à penser aux pieds, par exemple.
C'est particulier, voilà, les pieds, voilà, pour tout simplement, pour le violoniste. Et donc, en bougeant même par les pieds que les bras, on va finalement arriver à amener l'attention sur autre chose. Et en fait, ça, on va découvrir non seulement, en fait, on va se mettre dans une situation tout à fait nouvelle pour interpréter la musique, et donc certaines choses vont surgir. Et puis aussi, chorégraphiquement, c'est très intéressant parce qu'on est quand même très, très limité dans les mouvements. Donc, on est obligé d'être aussi là, très, très créatif pour pas, évidemment, que la musique, en fait, que, disons, le mouvement serve à la compréhension musicale et à la mise en évidence de la musique. Et soit évidemment pas un handicap.
Oui, c'est ça. Donc, c'est comme si la chorégraphie permettait une lecture un peu plus approfondie de la partition musicale. C'est comme si elle expliquait, si elle soulignait, oui.
Tout à fait. C'est, voilà, en étant, c'est-à-dire qu'il y a certains mouvements, certaines intentions qui peuvent être justement amplifiées ou des fois justement contredites pour pouvoir justement, en fait, les apprécier d'autant plus. C'est, voilà, c'est vraiment une projection, on va dire, très musicale dans ce cas-là.
Et alors, dans le cadre du projet Vivaldi L'Âge d'Or, c'est donc un répertoire baroque, il y a déjà toute une gestuelle baroque qui existe. Est-ce que vous la faites intervenir également dans vos chorégraphies des concerts?
Alors, pour l'âge d'or, évidemment, on a pris en considération beaucoup de facettes, en fait, de Vivaldi, donc de Venise, en fait. Donc, on a repris notamment les entrées que les orchestres faisaient avant les orchestres. On a repris la notion de place, la place Saint-Marc, où il y avait plein de choses qui se passaient, un dentiste qui enlevait une dent, un petit concert sur le côté, des masques, un carnaval, enfin. Donc, tout ce côté un peu hétéroclite,
anecdotique,
sans logique, voilà, anecdotique, tout à fait. Donc, évidemment, on a cherché une gestuelle qui découle directement de ce grand mouvement de la Venise baroque, en fait. Et alors, avec des moments aussi, on peut penser à Venise Venise la nuit, en solitude, avec tout simplement le mouvement de la vie, le mouvement de l'eau, le mouvement des gens, l'euphorie, les lumières. Ça nous a permis, en fait, d'approcher plein de plans, en fait. scéniquement vraiment intéressants, qui ont été soulignés évidemment par toute une création de lumière de Thomas Jacquemart, qui sont tous en coordination. C'est vrai qu'on a quand même, on est resté quand même très très proche. Ils sont des idées de base de tout ce qui peut définir la culture vénitienne. Bien sûr, le résultat est une création complètement contemporaine, mais l'esprit tient directement à l'esprit baroque vénitien.
Et pour illustrer vos propos, Olivier Flores, nous allons écouter un extrait de Vivaldi, justement, un extrait du Dixit Dominus. C'était un extrait du Dixit Dominus de Vivaldi, le Psychotherapeute, interprété par Robert King et le King Consort. Alors j'imagine que vous avez encore d'autres projets ensemble, Marianne Piketty avec Olivier Flores.
Bien sûr, un projet plus contemporain, peut-être moins axé sur la facette d'Olivier, décisionniste, oui, et puis plus ancienne, parce que ce dont il ne parle pas, c'est qu'il est passionné aussi de polyphonie beaucoup plus ancienne. Et que ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est aussi Olivier qui nous fait ce qu'il appelle nos projections pour cordes, c'est-à-dire qu'il fait comme s'il capte l'essence d'une musique et qu'il la projette pour notre ensemble. Ça a été le cas, par exemple, sur dans l'heure bleue pour les projections pour cordes qu'il fait garder bien. Donc, on a d'autres projets, et puis on a beaucoup de projets qui mettront en miroir dans la musique plus ancienne et la musique contemporaine, notamment avec Alex Dante, que nous allons rejoindre en Argentine. Merci Olivier Flores de votre présence, parce que vous venez dans l'Espagne.
Oui, je suis en Espagne, tout à fait. Voilà, tout se retrouve, c'est un peu le concert idéal, ça, hein, une espèce de d'endroit où plein de choses se rassemblent, se
mélangent.
C'est toujours très sympa. Voilà, ben
merci beaucoup
pour votre accueil.
Marianne, vous nous présentez votre deuxième invité dont on a évoqué le nom, Alex Nantes. Qui est Alex Nantes? Alex Nantes, c'est aussi une rencontre exceptionnelle. Je l'ai approché, si je puis dire, parce que j'étais sensible à sa musique. Pour un premier projet, c'était en 2017. Je ne sais pas, il vous dira l'âge qu'il avait, mais je crois qu'il était encore en master au CNCM de Paris. Donc aujourd'hui, il est nommé auditeur à la musique, il est demandé par les plus grands orchestres. Donc vous voyez en quelques années comment il s'est développé. Voilà. C'est que, pourquoi je l'aime, pourquoi je l'aime, c'est beau, il y a un truc d'une chanson.
Et, enfin, bon,
il ne prenait pas.
science de l'écriture, c'est-à-dire qu'il entend tout ce qu'il écrit. Il a une science, il base ça, il écrit toujours ancré avec une musique ancienne. Il a une immense érudition de musique ancienne, de musique aussi, de toute la musique qui le précède, et de littérature. Donc sa musique, il y a quelque chose qui est ancré donc, dans cette érudition, et puis c'est doublé d'une sensibilité, d'une quelque chose de très authentique. Il n'y a pas de besoin d'accent. Donc, sa musique me touche, m'a tout de suite touché. Il s'est prêté sur notre premier opus au fil d'Ariane. Et donc, voilà. Laissons-le parler. Alex, donc, j'espère que vous rougissez à l'écoute de tous ces merci. Compliments.
Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là, d'être ici avec vous.
Alors, c'est intéressant, un compositeur d'aujourd'hui qui travaille sur le répertoire d'hier.
Oui, en fait, ça m'intéresse énormément à la musique, peut-être un peu plus ancienne que la musique baroque, mais la musique médiévale surtout, ça m'intéresse énormément. J'étudie beaucoup ça, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais les côtés rituels en fait, de cette musique que parfois n'a pas des compositeurs, mais c'est. Parce que c'est une musique anonyme dans quelque sorte. Et parfois aujourd'hui, nous les compositeurs, on est un peu trop narcissique, c'est compliqué. Mais aussi, ma m'intéresse vraiment de sorte de rentrer dans un rituel, de faire partie peut-être d'une communauté de musique. Donc, ça, je pense que ça m'inspire énormément. Et justement, le côté rituel est très présent dans.
Je vous propose qu'on écoute tout de suite un petit peu votre musique. On écoute un extrait du disque de Sylvie Marianne, qui évoquait Marianne. Donc, c'est un morceau qui s'appelle Specchio et qui est donc interprété par le Conseil des
Thank you.
ce travail avec, dans le cadre du film Ariane. Donc c'est un travail de recomposition, un travail d'imagination à partir d'une mémoire. Qu'est-ce que c'est exactement que le travail que vous avez fait avec l'ensemble du Conseil Idéal?
Tout à fait, c'était une énorme chance pour moi de faire ce travail avec Marianne Fabmire, énormément, c'était une expérience magnifique. Et là, cette idée avec Olivier Fouest de faire une sorte de contrepoint avec Locatelli, un contrepoint imaginaire, un dialogue imaginaire avec ses compositeurs. Et on arrive à un point où Locatelli et mes pièces succèdent d'une manière où on confond en fait, les compositeurs, on ne sait pas quand est-ce que Locatelli finit, quand est-ce que la musique commence.
Oui, c'est exactement la sensation qu'on a à l'écoute du disque. On a une frontière très floue entre hier et aujourd'hui.
Oui, l'idée d'écrire une sorte de labyrinthe musical. Et à un moment précis de la pièce, les deux mondes se mélangent. C'est-à-dire, il y a une basse harmonique de Locatelli, où à l'époque, apparemment, on était censé improviser là-dessus. Et moi, j'ai écrit cette improvisation. Alors, c'est le moment du disque où il y a vraiment les deux mondes qui se superposent. Pas superposent pas, mais se superposent. Et voilà. Et les spectios, c'est le moment du duo entre les deux violons qui est vraiment écrit. Vraiment, en pensant au jeu tellement subtil et lumineux de Marianne, qui le joue avec Luis Salmona, notre violoniste de l'ensemble.
Donc c'est important pour vous d'écrire pour des artistes, des interprètes que vous connaissez. Donc vous connaissez la texture du jeu, la façon de jouer, le tempérament.
Tout à fait, je pense que c'est fondamental. D'abord, quand j'ai commencé à écrire, j'avais une approche un peu plus abstraite, en fait, avec... je ne pensais pas trop aux solistes, et je pense que il faut vraiment penser aux solistes, et c'est nourrir les solistes, parce que moi, j'ai beaucoup appris avec Marianne, la subtilité du violon. Moi, je ne suis pas violoniste, et même si j'ai beaucoup, bien sûr, étudié l'instrumentation, toutes ces choses-là, et certaines subtilités, certaines choses qui marchent, certaines choses qui ne marchent pas. Et vraiment, écrire pour les solistes, ça c'est en pensant spécifiquement aux solistes, ça change vraiment la chose complètement.
Vous avez d'autres projets, Marianne et Alex, ensemble?
Bon, on vient justement d'enregistrer nouveau CD avec ma pièce sur l'étoile, ma première flèche, et sur la allégorie de la nuit, et aussi dans les CD, il y a des arrangements de Lily Boulanger, d'un artiste d'un enfant de 30 ans, que j'ai fait un arrangement pour l'ensemble, et aussi les poèmes légères de Lissaline, que j'ai arrangé aussi pour l'ensemble, après avec d'autres pièces. Et tout le fil conducteur, c'est justement la nuit, l'idée d'un détachement spirituel qui peut suggérer cet état nocturne. C'est un peu l'idée de la nuit obscure de l'âme, en fait, dans un contexte un peu plus sacré ou religieux. Et ça, c'est le fil conducteur du CD.
Marianne Piketty, c'est intéressant. Alex vient d'évoquer la richesse du travail avec les interprètes. J'imagine que de votre côté, cette relecture, on peut presque dire ça, d'œuvres du passé est aussi très riche pour l'interprète que vous êtes. Bien sûr. Et c'est là pour vous parler de ce nouveau projet qu'on vient d'enregistrer. Vraiment tout projet qui s'appelle donc Sous l'étoile, en référence à l'œuvre qui a écrite. Tout le projet, y compris cette résonance avec Lily Boulanger, cette résonance, c'est tout ce que m'a inspiré sa pièce.
Et donc de pouvoir ce nouveau CD est vraiment voilà, il va évoquer du coup il nous apporte la nuit mystique, une quête, cette errance, cette thématique qui nous est chère à tous les deux, d'une errance nocturne. Mais aussi, comme il y a Olivier Fourès, il y a aussi la nuit exubérante de Vivaldi, il y a la nuit charnelle rêveuse d'Isaïe, mais quand même tout est parti de sa pièce et de la richesse. Donc oui, c'est très inspirant.
Ok, enfin, attendre un petit peu avant de l'entendre, et en attendant, on réécoute un extrait de ce disque, le fil d'Ariane, le classique s'agit du Lamento. Question-réponse, pareil, vous avez sollicité votre public sur les réseaux sociaux d'ailleurs, et les questions ne se sont pas fait attendre. Alors, voici un échantillon. Alors, par exemple, on vous demande est-ce que vous avez appris la musique par cœur quand vous jouez? Ah, pourquoi est-ce que je joue par cœur? J'ai la chance d'apprendre assez bien par cœur, et souvent on me demande en fait est-ce que c'est difficile d'avoir toute cette musique par cœur. Après, je trouve que c'est une richesse et ça donne une liberté sur l'instrument. Est-ce que c'est difficile de jouer en bougeant? Ah oui, ça c'est vrai qu'on a beaucoup cette question. En fait, c'est comme une autre partition. Je pense que ça, un danseur dirait la même chose. C'est-à-dire que oui, c'est très compliqué. Au début de le Vivaldi l'âge d'or, je me souviens, la première générale, on monte sur scène, on a l'impression de plus rien savoir. Et dans les premiers déroulés, d'un seul coup, la tête tourne et on sait plus du tout où on est. Donc en fait, c'est notre partition qui s'inscrit. Et il faut savoir qu'il y a un moment, les deux partitions se nourrissent, et justement la mémoire se pose aussi sur la mémoire du corps. Alors pourquoi est-ce que vous jouez pieds nus? Parce qu'on bouge, et bon, déjà, je suis souvent pieds nus, et j'adore être pieds nus pour être enracinée, et puis quand on bouge, ne serait-ce que ça fait du bruit, moi c'est le côté ancré, c'est... on sent l'enracinement dans le corps, on sent un peu... Ça donne une liberté, encore une fois. Alors, est-ce que c'est très physique, le violon? C'est l'impression que certains de vos spectateurs ont. Alors, il paraît que oui, que voilà, je bouge beaucoup la tête, c'est fatigant. En fait, on a quand même une technique. C'est ce que je réponds toujours à ça, c'est que non, le violon, ça n'est pas fatigant physiquement. C'est, on travaille avec nos corps, donc on peut les abîmer parfois. Mais le plus ça fatigue, le muscle qui travaille.
C'est le cerveau.
Dernière question, est-ce que vous ne jouez qu'avec le concert idéal? Ah non, je ne joue pas uniquement avec le concert idéal, même si, si les choses se tournent de plus en plus autour du concert idéal, mais j'ai la chance d'avoir d'autres partenaires en musique de chambre, notamment Mathieu Carly, avec Xavier Philippe, Emmanuel Bertrand, Philippe Gaillard. Et aussi, les membres du concert idéal ont d'autres horizons. Et on vient d'horizons divers, et le concert idéal se nourrit de ces autres rencontres également. Alors, une petite question encore, mais peut-être pour ceux qui ont assisté à vos concerts. C'est quoi le grand instrument? Il y a une question d'enfance. Oui, on a toujours, quand on va jouer dans les rues à Avignon, parce qu'on va à Avignon, c'est quoi le grand instrument? Le sublime instrument avec le céleste orbe. Et voici quelques-uns des rendez-vous qui vous permettront de rencontrer les ensembles de la région centre en ce mois de mai. L'ensemble des familles françaises seront le 21 mai à 19h30 à l'Institut à Orléans pour un concert intitulé Musique pour le coucher du roi, et puis le 26 mai, ils seront à l'Université du Temps Libre pour une conférence sur la musique à la cour qui sera donnée par la pianiste Béatrice Martin. L'ensemble consonance, lui, sera les 19 et 20 mai à 20h30 dans l'église Saint-Pierre à Tours pour un programme Chant du soir, Vêpres, Nocturne et Sérénade de Mozart et Haydn, fruit du travail pédagogique avec des élèves des lycées et du CRR de Tours. L'ensemble La Rêveuse sera le dîner à 20h30 pour une fête champêtre autour de Marin Marais et François Couperin à Orléans, à la scène nationale, puis le 12 mai à 19h pour l'entretien des muses à la Ferté-Saint-Cyr dans le cadre du Festival de Chambord à l'église Saint-Sulpice. Le concert idéal avec vous, Marianne Piketty, le 6 mai, sera à l'escale à Saint-Cyr-sur-Loire pour le programme 10 heures du village d'Or et le 14 mai au manège de l'abbaye.